ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emporté sans retour. Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre ce jour?
Vamos al corte.
Chucaiza, niño huesta.
Vamos a defender nuestra madre tierra.
Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende.
Divina, es mi madre tierra.
Vamos al corte.
Chucaiza, niño huesta.
Vamos al corte. Proceso de liberación de la madre tierra.
Salutations, vous êtes bien à l'écoute de Canal Sud sur les 92.2 MHz de la bande FM. Aujourd'hui, une émission qui va parler de décoloniser l'éducation, de déclôturer les terres et les têtes. Avec nous dans les studios, Myriam.
Salut.
Bonjour. Nous avons aussi Myriam et Sarah. en soutien.
Salut.
Myriam, tu es ici pour parler d'un sujet qui concerne une région particulière de la Colombie, qui est le Cauca, qui est une région de résistance, de lutte, dont on n'entend pas forcément parler. Plus on s'éloigne, moins on en entend parler d'ailleurs.
Oui, en fait, donc moi je suis française, mais j'habite en Colombie. Maintenant, ça fait depuis 2017 à peu près que j'ai rencontré cette lutte et que je participe à soutenir cette lutte. Donc c'est le processus de libération de la terre-mère du nord du Cauca. Et en fait, la lutte, c'est une lutte de communautés autochtones de cette région, donc la communauté Nasa, qui en fait occupe des propriétés qui appartiennent aujourd'hui à l'industrie de la canne à sucre. Donc en fait il faut savoir que la vallée du Cauca, c'est une vallée qui avant était une forêt tropicale et qui aujourd'hui représente 400 000 hectares de monoculture de canne à sucre. Donc 400 000 hectares, c'est...
Elle est située où par rapport à la Colombie, qui est un énorme pays? Et comment et pourquoi progressivement on est arrivé avec cette monoculture, alors que, comme tu viens de l'expliquer à la base, c'était sûrement beaucoup plus diversifié?
Eh bien, le Cauca, en fait, le nord du Cauca, parce que déjà le Cauca, c'est une grande région, c'est situé dans le sud-ouest de la Colombie, à peu près 2 heures de Cali. C'est la grande ville la plus proche. Et en fait, depuis le début de la colonisation, donc les premiers conquistadors sont arrivés dans la région en 1536, si je me trompe pas. Et en fait, dès le début de la colonisation, en fait, ils se sont rendus compte que c'était des terres qui sont hyper fertiles. Donc, dès le début, on a commencé à couper la forêt, quoi, pour mettre, au début, pour mettre de l'élevage de vaches, pour mettre, puis du café, pour mettre du coton, et puis très vite de la canne à sucre. Et au fil des siècles, en fait, ça n'a fait qu'augmenter, quoi. Et donc aujourd'hui, il n'y a plus du tout de forêt dans toute la vallée. Et puis c'est que de la monoculture de canne à sucre. Et en fait, ça s'est surtout beaucoup, beaucoup développé au XXe siècle. Avec l'industrialisation et tout ça, en fait. Et puis bon, il y a eu aussi en Colombie... Bon, je passe les détails parce que ça a été bien sûr un processus super long et super complexe, mais... Disons que dans les années 50, qui représentent l'époque de la violence en Colombie, où il y a eu énormément de déplacements forcés, en fait, ça a été une période où, par exemple, à cause de la violence, du coup, beaucoup, beaucoup de paysans ont été déplacés, ont été obligés de partir. Et en fait, là, ça a été vraiment le moment où les riches propriétaires se sont complètement appropriés de ces terres. Donc c'est important de préciser qu'en fait ces terres elles ont été accaparées en fait par la force, par tous les moyens en fait. Donc
parce qu'il y avait des populations indigènes qui vivaient sur ces terres.
Ouais, tout à fait. Ouais. Donc surtout les communautés Nasa. Avant il y avait aussi d'autres communautés. Aujourd'hui c'est la communauté qui est la plus représentée sur ce territoire, qui habite toujours sur ce territoire. En fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que avec le processus de colonisation, dans les années 1700, en fait, il y a eu des accords entre la couronne espagnole et les communautés. Et en fait, donc il y a eu des zones qui ont été définies comme autonomes pour les communautés, qui sont dans la montagne. En fait, en gros, on les a poussés vers la montagne, et donc ces zones, on les a appelées les resguardos, qui existent encore aujourd'hui, en fait, c'est une législation qui existe encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les communautés, en fait, elles sont toutes acculées dans les montagnes, et au fil des siècles, les communautés, elles grandissent, et du coup, aujourd'hui, il n'y a plus du tout assez de terre pour toutes les familles, et c'est aussi pour ça que les communautés aujourd'hui de ce processus de libération, en fait, souvent, c'est des personnes qui viennent des montagnes et qui descendent dans la vallée pour agrandir leur territoire, en fait. Et parce que il y a plus assez de terres pour cultiver, et qu'en fait, ces terres, elles devraient être aux communautés, elles devraient être aux gens qui ont besoin de travailler la terre. Et du coup, ce processus de libération, il a commencé en 2014. Même si c'est... eux, ils aiment bien dire que, qu'en fait, c'est un processus qui a commencé en 1536, mais... Et qui a continué jusqu'à aujourd'hui, donc c'est pas nouveau. Mais disons que c'est en 2014 vraiment que ces exploitations-là, elles ont été, ces propriétés-là, elles ont été occupées. Et aujourd'hui, ça représente à peu près, si je me trompe pas, 7000 hectares de terre où il y a plus de canne à sucre. Parce qu'en fait, du coup, l'action principale que ces communautés-là font, c'est d'occuper les terres, de couper la canne et de semer du maïs, des haricots, des bananes, bref, des aliments, quoi, et construire leur cabane et vivre sur place, élever des animaux, et puis laisser la forêt pousser, et voir les animaux aussi qui reviennent, parce qu'il n'y a pas que les humains qui ont été déplacés, mais les animaux aussi ont été déplacés, et en fait... parce que voilà, dans les monocultures de canne à sucre, y a pas d'animaux, quoi, parce qu'en fait, il n'y a rien à manger, il fait hyper chaud, alors que normalement, il devrait faire frais, et du coup, voilà.
C'est vrai que dans le processus de réappropriation des luttes, il y a effectivement ces actions où on récupère très concrètement, en rentrant sur les propriétés, couper la canne à sucre, replanter ce qui va servir à l'alimentation, pour l'élevage, donc c'est... réoccuper les terres qui appartenaient déjà au peuple Nasa.
En pie de lucha, como decimos nosotros, como dicen los niños, como dicen los mayores, como toca hoy en día hacer la resistencia de estos espacios, tumbando caña. Lo que toca, ya toca esto es como analizarlo mucho, ¿no? También mirar, ¿no? Porque también miramos que a veces el gobierno es muy astuto, ¿no? Y de alguna manera también hace como si hiciera su esfuerzo, pero sabemos que este esfuerzo lo hace es el pueblo, ¿no? Entonces, no hay nada bueno de parte del Estado, sino que esto lo ha hecho el pueblo inconforme por unos gobiernos corruptos, por unos gobiernos que han hecho es azotar a la gente vulnerable, a la gente que inclusive tilda de pobre, cuando sabemos que todo el pueblo es el que hoy en día inclusive alimenta el mismo gobierno. Entonces, esa es la fuerza que de acá le mandamos, ¿no?
Ouais, tout à fait. Et en fait, c'est récupérer, mais c'est aussi libérer. C'est pour ça que le processus, enfin le nom du mouvement, ça c'est le mouvement de libération de la terre-mère. C'est important parce que pour eux, c'est vraiment pas que récupérer les terres, mais vraiment les libérer. C'est-à-dire qu'eux, ils considèrent que, en fait, la terre, elle est esclavisée par la canne à sucre et par toute l'exploitation de la terre, l'extraction minière. C'est aussi un territoire, il y a pas mal d'extraction minière. Et qu'en fait, leur action, c'est de dire, en fait, il faut qu'on libère la terre pour qu'elle puisse juste se régénérer, et qu'on puisse tous vivre bien, en harmonie, ils utilisent ces mots-là, avec tous les êtres vivants, en fait,
Oui, c'est pas uniquement
du territoire.
Pour le peuple Nasa.
Voilà, et c'est pour tout le monde. Et souvent, en fait, un des slogans un peu qui a été utilisé, c'est de dire, en fait, on libère pas... Notre lutte, c'est pas une lutte de Nasa pour les Nasa, c'est une lutte de Nasa, mais pour toute la planète, en fait.
Tu parles de libération, c'est vrai que ce qui est difficile aussi à appréhender peut-être dans ce mouvement, c'est justement tout l'imaginaire dont on est emprisonné autour du vocabulaire qui nous enferme en fait dans un imaginaire en fait très réducteur. Je parle moi de mon point de vue situé d'occidental, tu vois. Et je dois dépasser mes propres frontières mentales. Je parle de terre-mère. Donc il faudra peut-être aussi redéfinir ce que c'est du point de vue des Nasa et pas de ce que... Enfin là, je reparle de moi, mais moi, ce que je peux y mettre, qui est sûrement totalement faux, à côté d'une méconnaissance totale, quoi.
Ouais, je pense qu'aussi ça fait partie de beaucoup d'une vision coloniale et raciste aussi qui peut être dominante ici en France, en Europe, dans le monde occidental, qui a tendance à toujours... voir les spiritualités ou les visions du monde ou les épistémologies des autres communautés du tiers-monde, de les voir comme des trucs bah, qui sont, voilà, que c'est du folklore, que c'est pas un truc qui a de la valeur, et du coup de les considérer comme inférieurs, tout simplement, ou comme pas vraiment valides. Donc c'est pour ça que souvent quand on enfin moi j'ai l'impression que souvent quand des communautés s'expriment en ces termes-là de terre-mère, de spiritualité, tout ça, en fait elles vont être tendance à pas être vraiment prises au sérieux, alors qu'en fait moi ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que en fait c'est des communautés qui ont un vrai apport politique et une vraie proposition politique à faire bah face à tout ce qui se passe, enfin aux défis en fait qu'il y a en ce moment sur cette planète, et en fait qui est pas du tout écouté, et je pense que si on fait l'effort de vraiment essayer de comprendre, d'écouter en fait qu'est-ce qu'elles ont à dire, bah on se rend compte qu'en fait c'est incroyable d'apprentissage, quoi, qu'on enfin moi en tout cas de toutes ces années que j'ai passées là-bas, j'ai vraiment beaucoup appris. Et notamment, bah, du coup, sur le concept, par exemple, de terre-mère, qui peut, du coup, comme ça, quand on l'entend, ça peut un peu faire tiquer ou quoi, mais en fait, c'est pas forcément ce qu'on se représente, et je pense que, enfin, là-bas, en tout cas, les communautés, elles considèrent vraiment qu'en fait, le vivant, qu'en fait, tout est connecté, quoi, et qu'en fait, la terre, c'est ça qui nous donne la vie, et c'est ça qui donne la vie à tout, et en fait, on est... En fait, c'est aussi une manière de se décentrer de ce truc que l'humain est au-dessus de tout. En fait, on est juste on fait juste partie de tout ce qui nous entoure. Et en fait, on n'est pas supérieur. Et en fait, on va pas sauver le monde. Et en fait, c'est au contraire. Tu vois, on est en train de le détruire. Et du coup, c'est une manière de dire, bah en fait, il faut qu'on soit un peu plus humble aussi et qu'on redescende un peu de ce piédestal et de se rendre compte que, déjà la Terre. Enfin, la nature, la terre, la vie, elle se régénère toute seule, qu'en fait, il faut juste la laisser tranquille et que c'est pas l'humain qui va sauver le monde. Au contraire, c'est moins on a d'impact, plus les choses, elles vont s'équilibrer, quoi. Donc, il y a un peu cette vision-là et cette vision de vraiment de donner de la valeur à la vie dans son ensemble et à toutes les formes de vie et que, voilà, en fait... on n'est pas, il n'y a pas que les humains, il y a aussi les animaux, il y a les plantes. En fait, que cultiver la terre, c'est hyper important. Enfin, aussi ce truc-là de se rendre compte de ça. En fait, nous, on grandit dans une. On vient de la ville, on grandit dans des sociétés où, en fait, on ne sait pas cultiver la terre. En fait, c'est un truc de ouf, en fait, de se dire que personne ne nous apprend. En fait, on ne sait pas le faire. Et en fait. Moi, par exemple, quand je suis arrivée là-bas, au début, tu sais, les gens, ils te regardent trop bizarre parce qu'en fait, tu sais rien faire. T'es teubé, en fait.
Tu sais pas couper les plantes bananes, quoi.
Ouais, et tu sais. Et en fait, tu t'as pas. Et c'est des savoir-faire vitaux, en fait. Et ça devrait être un des premiers trucs qu'on nous apprend à l'école, en fait. De pouvoir se nourrir et survivre, en fait, sans dépendre de l'argent et d'aller acheter au supermarché. Donc. Voilà.
Mais c'est vrai que c'est un positionnement politique, un enjeu politique, puisque le modèle de vie décrit, c'est tout à fait contre le capitalisme. Sarah, ouais. Toi, tu as été, par exemple, te rapprocher de la terre.
Couper des bananiers.
Donc c'était quoi tes premières impressions
Peut-être même que grâce à moi, il y a des bananes maintenant. Qui sait mes premières impressions. Je sais pas, c'est... En fait, c'est vrai que ça fait... ce truc de rapport à la terre, il est particulier quand t'arrives de la ville, parce qu'il y a de la nature partout. Donc en fait, tu peux pas non plus l'ignorer. Et je pense que c'est ça qui éloigne aussi des concepts, de comprendre en fait pourquoi il y a un rapport à la terre qui est aussi important, c'est parce qu'il y en a. Et comme on vit pas dans des sociétés... en France, par exemple, quand on est en ville, enfin, il y a rien qui nous rattache à ça... Et comme tu dis, en fait, ce truc d'apprendre à l'école, il y a des enfants qui ne savent pas que les légumes poussent dans la terre. Qui pensent que ça pousse dans les rayons du supermarché, mais c'est vrai. Mais c'est pas... En fait, c'est que aussi... c'est comme t'en vois pas autour de toi, tu peux pas t'imaginer que tu peux avoir un impact sur ça. Mais peut-être tu peux nous parler de la situation politique, pour qu'on comprenne un peu le cas au cas... particulièrement, mais en fait, parce que là, pour un peu visualiser de aussi comment les NASA sont perçus, comment cette lutte elle est perçue, et c'est quand même un territoire où il y a des personnes afro.
Ouais, donc déjà un peu situé, donc le nord du Caucase, c'est un lieu où il y a eu, enfin voilà, ça a été une zone de conflit armé assez intense. Aujourd'hui, on peut dire que c'est quand même encore une zone conflictuelle, même si un peu moins, mais c'est une zone aussi où il y a pas mal de trafic de drogue, notamment de. En fait, c'est une zone dans les montagnes où c'est une grosse zone de culture de cannabis. Du coup, c'est toute la route, en fait, du cannabis, bah, ça traverse complètement ces territoires-là. Donc forcément, il y a aussi, du coup, bah, en fait, toute la question de, bah, des groupes armés liés au narcotrafic. Et ensuite, il y a les forces armées de l'État, donc la police et l'armée, qui sont des forces aussi répressives envers le mouvement. Donc c'est un mouvement, en tout cas, qui est... Ouais, qui vit beaucoup, beaucoup de répression. Donc, il y a des menaces tout le temps, il y a des arrestations, il y a eu des morts. Aujourd'hui, depuis 2014, il y a eu 12 morts au total. Il y a eu énormément de blessés, il y a eu des gens qui sont en prison. Donc, au niveau politique, c'est assez chaud. Mais ce qui, moi, me semble... Ah oui, après, par rapport aux autres communautés, donc c'est un territoire où il n'y a pas que des communautés NASA, il y a aussi des communautés afro-descendantes qui ont aussi toute une histoire de déplacement, d'accaparement, enfin voilà, qui se sont fait aussi accaparer les terres. Bon, il y a toute l'histoire déjà de base de l'esclavage, donc... C'est aussi des communautés qui luttent et qui ont lutté beaucoup pour la terre, mais qui, disons qu'à la différence des communautés autochtones, elles n'ont pas eu ces législations sur les resguardos, par exemple. Donc elles n'ont jamais eu des territoires où vraiment elles étaient, entre guillemets, un petit peu protégées avec des terres. Donc c'est des populations qui sont encore plus, on va dire, qui ont été plus dépossédées. Et qui aujourd'hui, par exemple, beaucoup sont allés dans les villes ou ont été déplacés du coup dans les villes ou travaillent pour l'industrie. Donc ils coupent la canne. Donc ça crée aussi... le pouvoir, il a vachement instrumentalisé ça. Donc il a fait une énorme propagande médiatique pour mettre les communautés dos à dos, en fait, et dire qu'il y avait un conflit interethnique sur le territoire parce que les Afros et les NASA qui se battent, qui s'entretuent, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui est complètement créé par, par le pouvoir, quoi, et notamment par le pouvoir économique de l'industrie de la canne à sucre, qui est vraiment très, très fort dans le territoire. Donc voilà, il y a tout... Donc, c'est un peu, c'est un peu complexe et ça fait que c'est un endroit qui est assez tendu. Et c'est pour ça que, du coup, le processus de libération, il essaye de mettre beaucoup d'efforts dans la communication, en fait, pour justement essayer de contrer un peu toute cette propagande médiatique qui est hyper forte. En fait, dans le pays, même dans le journal télévisé national, en fait, on va parler du Cauca et des indigènes qui sont violents, enfin vraiment comme des terroristes, quoi. Et donc, du coup, voilà, c'est important de contrer un peu toute cette propagande médiatique.
Le processus de libération a organisé des rencontres à différents moments, apparemment. Des rencontres soit internationales, avec des gens qui venaient d'international, soit avec d'autres communautés.
Hermanas y compañeras, nuestra palabra es colectiva. Por eso están aquí conmigo mis compañeras.
Buenas tardes, buenas noches, compañeros liberadores y liberadoras de la Madre Tierra. Desde Tierras Zapatistas queremos enviarles un saludo con todo el corazón. Aquí estamos reunidas todas las mujeres que luchamos y que defendemos nuestros territorios, cuerpos, nuestros territorios tierra. Cada una desde su país quiere enviarles un saludo de apoyo en su proceso y decirles que estamos para solidarizarnos.
Desde Argentina.
Desde Chile.
Uruguay,
desde Italia,
Colombia.
¡Viva la lucha del pueblo NASA!
¡Viva!
¡Viva la liberación de la madre tierra!
¡Viva!
Est-ce que tu peux un peu parler des liens qu'il peut y avoir avec d'autres communautés qui sont sur d'autres luttes? Mais je sais pas, je pense par exemple à la communauté de paix, qui est du coup une région qui n'est pas dans le Cauca, et qui, pour un peu voir, est-ce qu'il y a des trucs que tu peux mettre en parallèle avec d'autres luttes dans d'autres territoires de la Colombie, des trucs qui pourraient se rapprocher, ou qui, sur quoi sont basés les échanges et,
Du coup, il y a eu déjà... trois rencontres internationales qui ont été organisées. Donc, du coup, c'est des rencontres où, en fait, ils invitent des gens de plein de luttes en Colombie et ils essayent d'inviter le plus possible des gens aussi ailleurs. Donc, c'est vraiment des moments hyper riches parce que, du coup, plein de luttes pour... anticapitalistes, écologistes, mais un peu... Enfin, de toute façon, ces luttes-là, tout est mélangé. Ce que je voulais dire tout à l'heure aussi pour te répondre... c'est qu'il y a un truc qu'ils disent souvent aussi, c'est que, en fait, il y a tout le temps des gens qui viennent dire « Ah, mais vous, vous êtes écologiste. Ah, mais vous, vous êtes anarchiste. Ah, mais vous, vous êtes marxiste ou je sais pas quoi. » Et en fait, ils sont là « Mais en fait, non, nous, on est juste NASA. » Et je trouve que ça, c'est hyper important de le dire. C'est-à-dire que, en fait, ils suivent pas une idéologie imposée, mais en fait, ça vient vraiment de tout un héritage de résistance contre la colonisation et contre l'exploitation et des humains et du vivant, quoi. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Et du coup, dans les rencontres internationales, donc il y a eu d'autres communautés en lutte qui ont été invitées. Donc la communauté de paix, c'est une communauté du nord de la Colombie, une communauté paysanne, du coup, qui n'est pas autochtone. Donc paysannes, des gens qui n'ont pas forcément une identité autochtone ou afro-définie, c'est un peu mélangé. Et eux qui luttent contre le paramilitarisme depuis 25 ans, et donc eux, ils ont d'autres stratégies, la question d'occuper, ça c'est pas trop possible, donc eux, ils ont essayé plutôt d'acheter petit à petit un peu des propriétés, ou de se réunir, en fait, surtout en communauté, pour pouvoir résister au paramilitarisme. Donc cette communauté-là, c'est un endroit qui est très très violent, donc plus que dans le Cauca. Donc il y a eu 300 morts en tout depuis 98. Mais voilà, c'est toujours hyper fort de voir comment les gens, ils sont, en fait, ils résistent et ils lâchent pas, quoi. Et ça, je pense, c'est aussi un truc super fort de rencontrer ce type de lutte, c'est qu'en fait, comme ici, des fois, en Europe, en fait, on peut voir comment des luttes, elles peuvent abandonner, ou quand ça devient vraiment, vraiment très, très compliqué, bah, les gens, bah, il reste plus beaucoup de gens, ou en tout cas, ça devient compliqué, et puis les gens, ils partent. Alors qu'en fait, de voir que là-bas, en fait, les gens, ils peuvent pas partir. En fait, ils ont aucun autre endroit où aller, c'est leur lieu, c'est leur terre, c'est leur maison, et qu'en fait, au contraire, souvent, les gens là-bas, ils disent, quand il y a des morts, par exemple, ben en fait, maintenant, il y a du sang qui a été versé sur cette terre. Du coup, on va encore moins partir. C'est-à-dire que ça... Si on part maintenant, c'est comme s'ils étaient morts pour rien. Du coup, on va rester jusqu'au bout, quoi. Et ça, c'est super fort. Enfin, moi, ça, en tout cas, je trouve que c'est vraiment un truc hyper... Je suis hyper admiratif, toujours, devant cette force-là, quoi.
Se rompió el cemento, un millón de piedras, enojó la raza, reprimió el gobierno. Ciudades en paro, bloqueos y encuentros, tumbando estatuas, cayeron al suelo, los símbolos de ellos se desvanecieron. La primera línea presionaba fuerte, nunca se rindieron. Otros a la huerta, pues bajo esas piedras crece el alimento. Del Cauca llegaron, de pueblo a pueblo trajeron revuelto, era demasiado. Tienen sus cultivos, estaba impresionado, tumbando la caña en tierra de ricos que los compañeros vienen liberando. Hay un gran concierto por aquel encuentro, ganan ambos lados. Se tejen acuerdos sin institución como los hermanos.
Así suena mi compa. ¡Puro alimento! ¿Así dice el corrido? ¡Claro!
Et après, l'autre truc que je voulais dire, c'est que aussi un autre type d'événement qui est organisé là-bas, donc par ce mouvement, c'est les Marcha de la Comida, donc c'est des marches... dire marche pour les marches des aliments ou marche de la nourriture, bon, je sais pas comment on traduirait ça. Mais en fait, en gros, ils organisent des marches où ils amènent en fait toutes les, enfin, plein de bouffe en fait qu'ils ont cultivé sur les terres libérées, et ils les amènent dans les villes, donc dans des quartiers populaires, dans des communautés du coup urbaines en résistance, pour partager toutes ces récoltes bah avec les gens qui en ont besoin, parce qu'en fait dans les villes forcément bah t'as pas de terre, donc du coup bah t'es plus dans la merde à ce niveau-là, et t'es plus dépendant du travail et de l'argent.
Muchísimas gracias a la gente de este barrio por permitirnos, por abrirnos sus puertas y poder llegar a compartir. Sabemos que ustedes también están sufriendo ese problema del desalojo, de las amenazas, de la persecución. Por eso es necesario estar juntos. Por eso es necesario caminar juntos. Ahí van llegando con las bolsitas. Entréguemele ahí a la señora. Entréguemele al señor. De parte de los liberadores y liberadoras de la Madre Tierra. Esa madre que no nos desampara. Esa madre que la tenemos que cuidar, esa madre que pide a gritos que la curemos, que no permitamos que la sigamos explotando, que no permitamos que se sigan contaminando los ríos, que no se siga permitiendo hacer minería. No permitamos que esas leyes del despojo nos saquen del territorio. No permitamos que nos sigan asesinando, que nos sigan señalando. Aquí hemos venido a compartir con ustedes esa experiencia de tumbar caña, porque liberamos para que todos los seres del planeta puedan vivir.
Et du coup, ça a été aussi des espaces hyper intéressants de rencontre en fait entre les luttes urbaines et les luttes rurales, du coup, entre la campagne et la ville. Et voilà, et puis ce truc de dire en fait on va récolter, mais quand je vous dis c'est beaucoup beaucoup, c'est des camions et des camions, hein, c'est pas on ramène un sac de bananes. Hein.
C'est pas la récup.
Non, c'est vraiment c'est des tonnes de, c'est vraiment des camions et des camions. Enfin, je crois que la dernière, une des dernières marches, enfin dans l'avant-dernière qui était la plus grande, en fait c'était cinq énormes camions qui sont allés dans cinq villes différentes Et du coup, c'est hyper fort aussi de voir ces gens en fait qui vont récolter, qui vont passer du, enfin voilà, c'est du travail de ouf et tout, et juste apporter ça dans les villes et tout est gratuit en fait. Et d'être content de partager ça avec d'autres communautés, moi je trouve ça hyper hyper beau.
Ouais, Myriam, tu l'as évoqué, c'est aussi l'idée d'une résistance par la décolonisation. J'ai l'impression que la transmission est fondamentale, puisqu'il y a aussi cette idée de décolonisation de l'éducation et par l'éducation, en fait.
Ouais, c'est, enfin, toute la question de l'éducation, c'est hyper important. Parce que je pense qu'il y a vraiment une manière aussi de concevoir l'éducation qui est vraiment complètement, complètement différente et dont on a beaucoup à apprendre, quoi. Et en fait, là-bas, enfin, moi, dans les expériences un peu de transmission que j'ai pu, où j'ai pu participer et tout, il y a vraiment un truc de, c'est vraiment dans le sentir, dans le quotidien, en fait, c'est vraiment comment tu transmets une vision du monde, en fait. Et ça, c'est... Enfin, voilà, ça peut pas se transmettre par des bouquins ou par des trucs comme ça, en fait. C'est vraiment comment tu vis les choses et à partir de ce vécu... Enfin, et se vivre en communauté, à partir de là, c'est là où t'apprends, en fait. Et c'est là où tu... où les savoirs et cette vision du monde elle se transmet et ça c'est vraiment un acte de décoloniser, quoi. Et en fait là-bas souvent ils disent que en fait ils utilisent beaucoup le mot desalambrar, donc littéralement ça veut dire déclôturer. Donc et en fait ils disent voilà, on déclôture les terres, donc on enlève les clôtures des terres pour la libérer, mais en fait il faut aussi qu'on enlève les clôtures de nos têtes, parce que on peut pas juste libérer la terre si on libère pas aussi notre manière de penser, notre manière de voir les choses, parce que sinon si on libère 10 000 hectares de terre mais qu'après on va faire exactement la même chose, enfin et faire de l'exploitation et vendre nos récoltes au marché, en fait on n'a rien déclôturé et on n'a rien décolonisé, quoi. On continue à reproduire le même modèle, donc du coup il y a vraiment cette idée de décoloniser les imaginaires, de décoloniser tout, c'est-à-dire se défaire de tout le modèle de production capitaliste, de tout le modèle qui a tendance à considérer la terre comme un bien, comme une chose, comme quelque chose que tu peux qui est productif, donc toute cette vision aussi de la productivité, donc comment aussi on se défait de ça, comment on transforme du coup le rapport au temps, le rapport au travail, par exemple d'ailleurs le mot Minga c'est un mot qui veut dire le travail communautaire, mais c'est-à-dire c'est un travail qui est vraiment basé sur de la réciprocité et vraiment pas du tout sur des trucs de production ou pas du tout sur des trucs monétaires. C'est vraiment, en fait, il y a un travail à faire et toute la communauté vient le faire. Et puis quand il est fini, jusqu'à ce que ce soit fini, et toute la communauté, ça veut dire que tout le monde vient, les enfants aussi viennent, les vieux, les vieilles, et en fait on n'est pas là à regarder qui travaille plus, qui travaille moins, en fait, et puis tout le monde travaille tranquille, quoi, et il n'y a vraiment pas cette idée de aujourd'hui il faut qu'on finisse, ou on planifie, non, en fait, c'est vraiment Et puis c'est un espace vraiment communautaire, c'est-à-dire c'est un espace de vie, c'est un espace social. Enfin, la Minga, c'est hyper important en fait dans la, ouais, dans la vision du monde NASA, quoi. C'est vraiment un espace social hyper, ouais, hyper quotidien, hyper important, spirituel aussi, parce que c'est l'espace aussi où on va bah, transmettre, où on va continuer à faire vivre aussi bah, cette spiritualité, cette vision du monde.
Et là, on parlait d'éducation, du coup, ça m'a fait penser à, au langage, puisque là, tu parlais de la Minga, mais en fait, les NASA, on parle Nassaoui, certains NASA parlent Nassaoui en tout cas. Et je me demandais si, selon toi, tu penses que cette transmission, elle a un peu de cette langue, a un peu disparu avec les gens qui sont partis vers la ville. Et est-ce que, et est-ce que du coup, il y a un truc aussi de vouloir reperpétuer cette langue parmi les personnes de la libération?
Ouais, du coup, la langue, bah, la langue de cette communauté, ouais, c'est le Nassayuwe. Et c'est une langue bah, qui existe encore aujourd'hui, donc il y a beaucoup de personnes encore qui sont qui la parlent, mais qui de bah, petit à petit se perd. Et par exemple dans les jeunes générations aujourd'hui, il y a vraiment dans le nord du Caucase, il y a de moins en moins d'enfants. Je crois qu'il y a que 3% d'enfants qui parlent la langue aujourd'hui. Mais et du coup, je pense que enfin. Qu'elle se perd surtout parce que c'est une langue qui a été réprimée de ouf, bah surtout chez, je sais pas, il y a genre 40 ans, enfin en tout cas chez les personnes qui aujourd'hui ont 60 ans, 50, 60, 70 ans, qui ont vraiment été très très réprimées avec, à cause de l'école en fait, surtout à cause de l'école. En fait, à l'époque, l'école aussi c'était géré par l'église et en fait il y avait vraiment interdiction de parler la langue et, y avait, et du coup, dans la manière. L'école, ça a été vraiment un instrument de colonisation des imaginaires principal, enfin peut-être même le plus fort, parce que c'est ça qui a mis aussi, qui a fait que les gens, bah, du coup, ils ont intégré cette vision bah, que leur langue, elle n'est pas importante, que la culture NASA, c'est inférieur, qu'en fait, il faut adopter le christianisme, et du coup, ça les éloigne de la spiritualité. Spiritualité NASA qui est considérée comme bah, le diable et tout ça. Et du coup, tout ça, ça fait que bah, petit à petit, les gens bah, ils dévalorisent leur langue et puis bah, ils la parlent de moins en moins. Mais comme ça arrive dans plein d'autres situations coloniales, où en fait, comme ici en France aussi, où en fait, bah, voilà, si tes parents ils parlent arabe ou wolof, bah, en fait, il y a plein d'enfants qui ne parlent pas la langue parce que c'est dévalorisé, et du coup t'as honte de parler ta langue, et puis qu'à l'école on te dit non mais il faut que tu parles français parce que sinon après t'auras des lacunes, enfin bon, et c'est un peu le même schéma qui se passe là-bas. Et en tout cas, du coup, bah, le processus de libération de la terre-mère, ouais, il met beaucoup d'importance sur essayer de récupérer cette langue, et du coup il y a une école de Nassayuwe, donc et en fait, ouais, c'est de toute manière, c'est sûr que la langue, c'est hyper important aussi dans la transmission de, bah, de cette vision du monde, parce qu'en fait, on peut traduire vers l'espagnol, mais ça sera jamais la même chose, en fait, parce que les concepts en Nassayuwe, ils sont hyper profonds, et y en a beaucoup qui sont intraduisibles, même en espagnol.
Verificar, digamos, el trabajo que realizan las mayoras de Kingo, ¿no? La importancia de revitalizar la lengua NASA.
Tech, gen, tech, pan, tan, sech, sat, taun, ejem, semba.
Pues, que se hay, te, no se yuve, capía, y hay que se huela, ten, se conjunta, que lo que se capía, no, un tau. Ya chenya un coyota una que na acá fíjate pues que vit me yo no estoy así un sucta una ya huepa da ta se baja me ca un sucta na acá fíjate yo peca, enisa, ya un catash, na usta, na lucha, pues cobapi ya y na mera, na usa, cuete metao, na manden descante, ya un chapia, ya peca es, yo, vite chupatash, ya voy, na ya me, na, na, chucatas, apto, no, ya un.
Ouais, je voulais savoir pourquoi ça faisait aussi peur en fait la libération de la terre en fait. Tu penses que ça vient heurter à un modèle hégémonique, occidental, capitaliste? Ou alors c'est parce que ça occupe aussi des terres qui sont aussi économiquement hyper importantes, où on fait de la canne à sucre? Donc c'est le côté toi, idéologique ou le côté plus des terres qu'on peut pas utiliser parce que occupées par les NASA?
Je pense que c'est les deux. Parce que mais c'est marrant parce qu'il y a un autre article qui a été écrit par le mouvement où ils disent, c'est quand même fou que, qu'un épi de maïs puisse faire aussi peur aux puissants. Et en fait, ouais, c'est un peu les deux, parce que si on prenait que l'occupation des terres, 10 000 hectares, enfin 7 000 hectares, c'est rien sur finalement, 400 000 hectares. Donc eux, ça leur change rien. Enfin, l'industrie de la canne à sucre, les entreprises sucrières, elles disent, ah oui, non, ils nous occupent. Mais en fait, ça leur change rien. C'est-à-dire que c'est vraiment infime, je pense, les pertes qu'ils peuvent avoir par rapport à ça. Mais en même temps, c'est des terres qui sont. Enfin, il y a eu un enjeu stratégique sur ces terres-là, bah comme, enfin, depuis le début de la colonisation, super fort. Vu que c'est devenu quand même 400 000 hectares de canne à sucre, alors qu'à la base c'était une forêt. Donc il y a quand même des intérêts économiques très très forts sur ces territoires. Et après, il y a aussi le côté idéologique où en fait, je pense que c'est une attaque directe au modèle capitaliste, au modèle moderne, occidental, et qu'en fait c'est très peu de personnes, mais que c'est une attaque vraiment directe et qui peut. Et qui savent très bien qu'en fait si les communautés elles s'unissent, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a cette stratégie de division des communautés, si elles savent très bien que si toutes les communautés s'unissent, en fait. Bah, ils pourront rien faire. Et je pense qu'aussi, ça fait peur le fait que ça fait depuis 2014 qu'ils occupent les terres. En fait, il y a eu plus de 300 tentatives d'expulsion très violentes. Il y a eu 12 morts. Et en fait, les gens, ils restent. Ils reviennent. Et à chaque fois, la police détruit. La police, genre, c'est une police anti-émeute. L'ESMAD en Colombie, c'est une sorte de police anti-émeute super violente. Donc à chaque fois, ils détruisent toutes les cabanes, ils détruisent toutes les cultures. Ça a aussi été une stratégie qu'ils ont beaucoup utilisée et qu'ils utilisent encore. C'est de, dès que les cultures, elles sont prêtes à être récoltées, en fait, ils viennent et ils détruisent tout. Il y a eu sur un des points de libération, il y a 2 ans, il y a eu 19 vaches qui ont été assassinées. Enfin voilà, donc du coup, ils essayent par tous les moyens possibles que les gens partent, mais en fait, les gens, ils restent, ils reviennent à chaque fois et ils continuent à occuper plus et plus de terres. Du coup, ça fait peur.
Mais il y a des expulsions, il y a des tentatives d'expulsion, mais il y a aussi plein de moments où il n'y a pas de tentative d'expulsion. Est-ce que tu penses que c'est un peu un truc de pacification de dire ouais, on les laisse là, comme ça, ils ne vont pas nous faire chier sur un autre truc pour l'instant et d'arriver à des moments stratégiques, juste quand, par exemple, ils sentent que là, ils sont prêts pour aller occuper une nouvelle terre?
Moi, je pense que là, ces dernières années, il y a eu moins de tentatives d'expulsion parce que, justement, ils ont fait la propagande médiatique. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, les tentatives d'expulsion, ça marchait pas trop. Et qu'en fait, par contre, par le côté, du coup, discours, idéologie et tout ça, et ben ça marchait mieux, parce qu'aujourd'hui, par exemple, comme je disais, à la télé, on entend toute la journée, enfin pas toute la journée, mais en tout cas, on entend que, ben voilà, ils sont violents, quand même, c'est vrai que, bon, ils peuvent lutter pour leur terre, mais pourquoi ils le font pas de manière légale Et du coup, il y a vraiment, ça c'est entré aussi dans l'imaginaire de la société colombienne, qu'en fait... ils sont violents, que c'est pas bien. Et l'autre stratégie, vraiment, la division, quoi. Ce truc de diviser toutes les communautés, de les isoler, qu'il n'y ait pas d'union, par exemple, entre les afros et les Nassa, bah, ça a été vraiment une stratégie qui affaiblit le mouvement, quoi.
Sur le continent, il y a le Chiapas, qui est aussi connu et célébré. Je voulais savoir s'il y avait des liens entre ces deux mouvements. Voire de l'entraide.
Y a des liens dans le sens où, bah, comme on a, y a eu les rencontres internationales qui ont été organisées, les zapatistas, ils se déplacent pas, sauf là, par l'année dernière, ils sont déplacés, mais c'était la première fois, mais normalement, comme ils se déplacent pas, donc on n'a jamais eu de représentants qui sont venus, mais il y a eu des représentants de la Sexta. Qui sont les gens qui sont pas des communautés, mais qui soutiennent, qui sont
les envoyés spéciaux,
ouais, voilà. qui sont venus, qui participent. Il y a beaucoup de liens comme ça qui se font, on va dire, en tout cas, ouais, de soutien mutuel. Mais bon, après, c'est quand même des territoires qui sont éloignés, c'est quand même hyper compliqué de se déplacer, et du coup,
Et récemment, le gouvernement est passé à gauche. Quel impact tu penses que ça peut avoir ou que ça a déjà eu sur la libération de la Terre Mère et sur le mouvement et sur aussi les potentiels alliés qui finalement se prennent un peu de distance en se disant là ça passe à gauche, franchement, peut-être c'est bien, autant qu'on se satisfasse un peu de ça et qu'on y aille doucement sur nos actions.
Ouais. Et ben en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand Petro a gagné les élections l'année dernière, en fait, il y avait quand même, forcément, les gens, ils étaient plutôt contents. Ça a vraiment créé quand même beaucoup d'espoir chez les gens, que au moins, parce que bon, la Colombie, c'est quand même un pays où vraiment il y a beaucoup beaucoup d'inégalités, tout est privé. Enfin bon, c'est compliqué, quoi, quand même. Donc beaucoup de gens se disaient « Ah, mais au moins, si ça peut s'améliorer un peu, au moins la santé, l'éducation, ça serait déjà bien. » Et puis il y a des gens qui se disaient « En plus, du coup, les mouvements sociaux, on sera un peu tranquille et tout. » Mais en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que Petro, il a pris ses fonctions en août, je crois. Et je crois que moins d'un mois après, deux semaines après, je ne me rappelle plus exactement, en fait, ils ont sorti un ultimatum que toutes les personnes qui envahissent, donc ils ont appelé tous les envahisseurs de terre, ont 48 heures pour quitter les terres. Et en fait, même les gouvernements de droite et d'extrême droite n'avaient jamais fait ça avant. Et du coup, ça a créé un choc, parce qu'en fait, personne s'y attendait. En fait, qu'ils font, quoi? Et donc, il y a des représentants du gouvernement qui sont passés à la télé, donc en conférence de presse, pour dire qu'en fait, les envahisseurs, donc en plus en reprenant les termes de l'extrême droite, parce que c'est vraiment les envahisseurs, c'est le terme de l'extrême droite, donc que les envahisseurs quittent les terres, qu'il y aura une réforme agraire, qu'il faut attendre, qu'il faut faire les choses légalement, via les procédures légales, etc. Donc et si vous partez pas, répression, quoi. Et donc, du coup, à partir de là, y a beaucoup de gens qui ont déchanté, qui se sont dit, gouvernement de gauche ou de droite, c'est pareil, la répression, c'est pareil. Donc, nous, on va juste continuer à lutter, pour nos terres, mais sans condition. En fait, le processus de libération, il a toujours dit ça. En fait, on lutte pour récupérer nos terres sans condition.
Mundo que va por un rumbo de la destrucción. Yo ya no soy un ciego, la tierra defiendo con el corazón. Liberan las vacas también las abejas liberan arbustos y hasta las bacterias, seres de la vida. No soy su patrón, soy un comunero, un liberador. Y a mí me gusta tumbar caña y liberar con otros seres. En este encuentro en la Albania compartiremos los saberes. A mí me gusta tumbar caña y liberar con otros seres. En este encuentro en la Albania compartiremos los saberes.
Jason Liberador.
Yo nunca he sido un amo, soy del frente humano, eso es lo que soy. Y yo no salvo a nadie. La tierra es la madre, tiene propia voz. Seres de la vida, no soy su patrón, soy un comunero, un liberador. Y a mí me gusta tumbar caña y liberar con otros seres. Compartiremos los saberes. A mí me gusta tumbar caña y liberar con otros seres. En este encuentro en la Albania compartiremos los saberes.
Et quels sont les liens, si liens il y avait, avec les phares?
Ouais, c'est vrai que tout à l'heure, quand j'ai parlé des différents groupes armés en présence, donc j'ai oublié de parler de la guérilla. En fait, donc c'est une zone où il y a différentes guérillas. Donc il y a les, donc maintenant les FARC, comme il y a eu les accords de paix, du coup c'est les dissidences des FARC. Donc c'est surtout les dissidences des FARC qui sont présentes sur le territoire. Et non, et en fait, il n'y a aucun lien entre la libération et la guérilla. Au contraire, en fait, aujourd'hui, avec depuis qu'il y a les accords de paix et que, en fait, l'organisation centrale des FARC s'est retirée, en fait, on retrouve aussi un peu ces groupes armés qui sont complètement en roue libre. C'est hyper flou aussi parce que des fois, c'est pas très clair qui est qui et tout ça sur ce territoire.
Oui. Pardon, merci beaucoup, parce que moi, en plus, je connais pas grand-chose, du coup, j'apprends plein de choses. Je crois que j'avais une question par rapport, enfin, pour revenir un peu en arrière, par rapport à ce truc de communication, du coup. Je me demandais aussi si, artistiquement, il existait des choses dans le même sens que ta question sur le langage, un peu des choses qui sortaient de la communauté pour un peu raconter qui elles sont, un peu des trucs comme ça, en termes de ciné, de musique, de livres, de poésie, d'art plastique ou autre. Enfin, voilà.
C'est une très belle transition parce que je voulais venir à ça.
Pareil.
C'est génial. Ouais, c'est le moment communication.
Ouais. Et ben ouais, carrément. En fait, ça a été. Ça, c'est un truc. Depuis le début de la création de la Mingat Communication, en tout cas, on essaye de faire ça. Et aussi, les gens, les communautés, ils adorent, en fait. Tout ce qui est musique, cinéma, il y a eu beaucoup de musique qui a été faite, donc et notamment en fait des reprises de musique connue de là-bas. Enfin, là-bas, les gens, ils adorent écouter de la musique. Ils appellent ça la música de cantina, la popular. Ça, c'est les musiques qu'on écoute dans les bars où les gens ils se bourrent la gueule parce qu'ils ont un chagrin d'amour et ils boivent pendant 3 jours et tout. Voilà, donc il y a une musique spéciale pour ça.
On vous recommande, c'est... Et... voilà.
Il y a un groupe de potes comme ça qui s'est amusé à reprendre ces chansons-là et à changer les paroles et à mettre des paroles voilà, pour expliquer c'est quoi la libération et pourquoi tout le monde doit venir à la libération. Et donc il y a un album qui est sorti qui est sorti il y a pas longtemps. Donc, restez connectés.
On va passer des petits extraits.
Voilà, on passera des petits extraits.
Il y a Zeta dessus ou quoi?
Écoute, je l'ai invitée à plusieurs reprises, elle n'a pour l'instant pas répondu.
Alors, je tiens à signaler que lorsqu'on m'a invitée, l'album était déjà terminé.
Mais il y a un deuxième album en préparation.
Et donc là, nous avons un scoop.
Il y a un deuxième album en préparation. Et sinon, bah, il y a du théâtre, il y a toujours, enfin, voilà, des petites vidéos. Vous pourrez trouver aussi sur la chaîne YouTube de la Libération. Si vous tapez Liberación de la Madre Tierra Norte del Cauca, peut-être on vous mettra le lien sur le site. Vous pouvez trouver des petites vidéos qui ont été faites, voilà, de musique ou théâtre ou autre.
Mais c'est vrai que l'article finit par la dimension importante de nos processus d'apprentissage, c'est la joie. Mm-hmm. Enfin, c'est au-delà de la fête, la symbolique de la joie semble hyper important dans le processus de cohésion de la communauté. Tu as parlé un petit peu de la fête là. Est-ce que tu peux, voilà, peut-être pour terminer sur cette note
Et ben ouais, c'est hyper important. Je pense que ça aussi, c'est un des trucs qui chamboule un peu quand on va là-bas. C'est que malgré tout ce que je vous ai raconté de la violence, la répression, les morts, bref, le conflit armé, et malgré tout ça, en fait, ce sont des espaces en fait où les gens sont vraiment très joyeux. Et en fait, où la joie, c'est vraiment hyper important et c'est un truc qu'on vit vraiment, tout au quotidien. Et ça fait vraiment partie de leur vision politique, en fait. Et de leur vision politique et aussi de la vision du monde et de la partie plus spirituelle. C'est-à-dire que, par exemple, tous les événements qui sont faits, ça commence toujours par une danse, donc une danse traditionnelle avec la musique traditionnelle, donc flûte et tambour. Et en fait, c'est ça qui ouvre, en fait. Une rencontre ou un espace, une journée. Et par exemple, ça, c'est hyper fort parce qu'en fait, ça te met dans une autre ambiance. Et une journée, ça peut être une rencontre politique, une réunion politique, un truc hyper. Où il va falloir parler de choses hyper sérieuses, prendre des décisions et tout ça. Mais ça commence par cette danse et en fait, ça met tout de suite vraiment dans une autre ambiance, quoi. Et au-delà de la fête, c'est vraiment la joie. Et par exemple, il y a un pédagogue NASA qui disait, dans notre processus éducatif, on mesure notre niveau d'autonomie à la joie. C'est-à-dire que, en fait, c'est le fait d'être autonome, c'est le fait de pouvoir cultiver sa propre bouffe, de pouvoir construire sa propre maison, en fait, de pouvoir vivre libre en fait avec ce que la terre-mère te donne, c'est comme ça qu'il s'exprime, et en fait c'est ça qui nous donne la joie, en fait, parce que la joie on va pas la trouver dans des trucs incroyables, en fait la joie on va juste la trouver dans les trucs dans juste le fait de pouvoir vivre avec ce que la terre-mère nous donne et que personne nous en empêche et en fait qu'on soit juste libre de le faire et tout simplement, quoi.
Si vous voulez devenir une nouvelle personne comme moi, allez dans le Cauca. Non, mais parce que c'est important. Je dis aller dans le Cauca, mais en fait, c'est quand même important pour la libération, en fait, qu'il y ait des gens aussi qui puissent en parler, qui puissent... Parce que quand t'es dans une lutte où il y a une propagande permanente contre toi, c'est quand même important qu'il y ait des gens qui viennent voir... Moi, ce que j'ai trouvé, par exemple, c'est qu'ils étaient... c'est que lors des rencontres, ils sont quand même très contents qu'il y ait d'autres gens. Et il y a un truc un peu particulier qui n'existe pas trop ici, mais quand... en même temps, la comparaison, elle est un peu irréelle, mais quand t'arrives dans des réunions militantes, en fait, les gens t'accueillent pas comme ça. Là, les gens, ils sont contents. Ils disent, ouais, on va discuter, on va apprendre des choses, on va s'apprendre des choses, enfin, on va échanger. Et du coup, c'est presque genre, tu te sens genre un peu important, genre, ah ouais, beau, stylé, ouais, peut-être beau, ouais, peut-être j'ai un truc à dire, quoi. Même si t'as rien à dire, moi par exemple, je parle pas beaucoup espagnol, voire pas, je parle pas. Donc autant vous dire que bon, j'ai quand même participé à une rencontre où je ne comprenais pas grand-chose, mais je trouvais ça hyper bien. Donc c'est que quand même, il y a un truc d'échange qui... Que je trouve assez chouette. Il faut écouter l'album maintenant, faire tourner l'album.
Et après, il y a des textes aussi. Et bah sur, il y a un site web de la Libération, donc je crois que c'est liberaciondelamadretierra.org. Il y a pas mal de textes aussi. Il y en a certains qui ont été traduits en français, donc pour les personnes qui ne parlent pas espagnol. Et je pense qu'aussi dans la question artistique et tout, la manière d'écrire aussi, c'est vraiment... C'est vraiment chouette à lire, quoi. Et ça change aussi des discours militants ou des trucs un peu plus pamphlets ou plus auxquels on est habitué. Et en tout cas, ça, je pense, enfin voilà, ça peut être des lectures chouettes.
Et là, une petite question perso, t'es parti bien loin de la terre-mère, t'es en ville, bon, tu revois tes potes, peut-être ta famille.
Oh, ça fout le cas, ça.
Mais ça, comment tu te sens, quoi?
Non, bah moi je repars le 17 mai. Hein.
Ok.
Et comment tu te sens quand même?
Non, mais c'est dur. C'est... Enfin, pour moi, c'est toujours dur. Je suis toujours hyper contente de revenir en France, de voir les amis, la famille et tout. Mais je trouve ça hyper dur. Ouais. Je trouve ça hyper dur. Maintenant, ça me. Enfin, je trouve qu'on vit quand même dans des ambiances hyper stressantes où les gens, en fait, ils sont tous hyper stressés. Ou... En fait, ouais, ça me manque ma petite vie avec mon hamac et mon petit potager. Mais bon, après, voilà, c'est chouette aussi de pouvoir venir ici, pouvoir partager aussi tout ça avec les gens ici, échanger, parce qu'en fait, ici aussi, après je dis ça, mais ici aussi, il y a plein de gens qui luttent, qui résistent. Enfin, il y a plein d'autres choses qui sont hyper intéressantes à voir et à apprendre, et donc voilà, c'est ce que j'essaye de faire.
Trop bien. Quelqu'un veut rajouter quelque chose?
C'était super.
Bah, merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Et
merci à toi,
hein. Et voilà. Myriam, Sarah, Myriam, merci beaucoup.
Merci à toi, Germain.
Avec plaisir. Et puis, ouais, tu veux terminer en disant un truc dans la langue des NASA?
Non, je parle pas NASA Yungwe.
Tu prends pas de cours?
Mais je parle un petit peu quand même. Je sais dire quelques mots. Mais... Bah, si vous voulez, je peux vous partager un mot en NASA Yungwe qui est hyper important. C'est le wet wet finseni. Ça veut dire, littéralement, ça veut dire vivre savoureusement. C'est un peu le buen vivir, le bien vivre. Et en fait, voilà, leur lutte, c'est ça. C'est ce qu'ils disent. Ils ne sont pas écologistes, ils ne sont pas anarchistes, ils ne sont pas marxistes, ils ne sont pas je ne sais pas quoi. Mais c'est des NASA qui luttent pour le wet wet finseni. Donc pour pouvoir vivre savoureusement, tout simplement.
Necesito aprender y con gusto, con placer, voy a aprender NASA Yungwe. Y aunque cueste un montón, se orientó en la comisión para afianzar lo que hemos hecho. Hoy en la liberación pienso con el corazón, pero no llego a expresarlo. La culpa es del español, voy a borrarme el sabor de ese idioma traicionero. En esta escuela donde se habla NASA Yungwe liberando, vengo a aprender porque es muy tichue y no da pena. Serán 10 años sin afán si es necesario. Suenan canciones, pero de aquellas pa' enfrentar a los patrones. Un skip ni cahuetzena.
para ser fuerte como hicieron los mayores. ¡Frenando lo urbano! ¡Venga, cantemos! ¡Que brinde mi voz en la palabra! ¡Color!
¡Claro! Luis Alberto Posada, brindemos para que suelten las ayubes.
Que hoy quiero aprender, lo tomo como un deber, para enseñarle al niño. Y aunque es fuerte el español, puedo jurar por mi honor que lo entierro con el gringo. Hoy en la liberación pienso con el corazón, pero no llego a expresarlo. La culpa es del español, voy a borrarme el sabor de ese idioma traicionero. Y en esta escuela donde se habla nasa yugue liberando, vengo a aprender porque muy tichue y no da pena. Serán 10 años sin afán si es necesario. Suenan canciones, pero de aquellas va a enfrentar a los patrones. Jutehuesh, unskipni, cahuetzena, para ser fuerte como hicieron los mayores.